Il est 18h16 sur France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec Nona Maillère, directrice de recherche émérite au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, spécialiste des comportements politiques de l'abstention et de l'extrême droite, entre autres. Autant dire, la femme de la situation à 9 jours du second tour de la présidentielle, avec pour la première fois une possibilité non négligeable de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir. Ceux qui ont voté pour elle au premier tour avaient des arguments à faire valoir.
Il y a beaucoup de gens qui sont tôt dans les champs, ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à 65 ans, à mon avis. C'était le moment de voter Le Pen et c'était le moment de montrer à tout le monde qu'effectivement, on n'est pas super content du travail de Macron.
Pas super content non plus les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui sont profondément divisés pour le second tour. Certains, malgré le risque de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, n'iront pas voter pour le président candidat.
Le mec, je me suis battu contre lui pendant 5 piges, j'allais dans les manifestations, j'allais partout contre lui. Je ne peux pas voter pour lui.
Une gauche divisée, une droite décomposée, dont une partie des électeurs ont trouvé en Emmanuel Macron un candidat qui leur convient.
Pourquoi changer? J'ai confiance en lui.
Il est de droite ou de gauche, Emmanuel Macron?
Oh, il n'est pas de la gauche, surtout.
Parole d'électrice de droite dans le reportage de Delphine Evenou. À suivre également les reportages de Béatrice Duguet et Stéphanie Scock. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, la chronique « Jeu de pouvoir » de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1, consacrée ce soir à ce que les Allemands appellent « Schadenfreude », le fait de se réjouir du malheur des autres, et ce scrutin en est aussi une illustration. On évoquera également dans la dernière partie de cette émission le parcours de Nona Maillère et la sortie d'un livre collectif qu'elle a co-dirigé aux éditions de l'Aube, Les mots qui fâchent. On y trouve wokisme, grand remplacement, indigénisme, néo-féminisme, islamophobie, privilèges blancs et j'en passe. À 19h, le journal de Jérôme Cadet. À 19h20, le téléphone sonne. Référendum, septennat proportionnel. Question ce soir sur les projets de réforme institutionnelle des deux candidats à la présidentielle. Vos questions au 01 45 24 7000. Merci à Henri Bérec, Ronan Mahé, Antoine Teboul à la technique, ainsi qu'à Magdalena Hervada pour la page web.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Nona Maillère.
Bonsoir.
Un grand merci d'être avec nous ce soir. Merci de venir nous éclairer dans ce moment si incertain. On est à 9 jours du second tour de la présidentielle. On a la même affiche qu'il y a 5 ans, mais j'ai envie de dire que tout est très différent. Alors pour l'instant, tous les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur de ce second tour, mais c'est vrai que la marge n'est plus du tout la même qu'il y a 5 ans. Vous, Nona Maillère, qui êtes une grande spécialiste de l'extrême droite, je le disais, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen a une chance d'arriver au pouvoir?
Vous savez, en politique, on n'est jamais sûr. Et jamais un scrutin présidentiel n'a été aussi incertain. Jamais il a si peu intéressé. Jamais les électeurs et les électrices ne se sont décidés si tard, beaucoup le jour même du scrutin. Autrement dit, on n'est pas à l'abri. Il y a un certain nombre d'éléments qui jouent contre, qui rendent improbable l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Malgré l'adoucissement de son image, elle continue à faire peur. Il y a à peu près 50% de la population française qui considère qu'elle reste un danger pour la démocratie. Et puis, il y a une minorité de cet électorat qui juge qu'elle a une vraie stature présidentielle. On est à 39%. Donc, elle a ses défauts. Mais elle a fait une excellente campagne. Une campagne de terrain, de proximité. Elle a anticipé, avant tous les autres candidats, l'importance du pouvoir d'achat. Et surtout, tout dépendra de la... Il y a une telle envie de s'abstenir, de ne pas aller voter ce jour-là pour des raisons différentes, que tout dépendra en fin de compte du taux de mobilisation différentielle de ces deux électorats, d'une part. Et puis, n'oublions pas qu'en politique, on n'est jamais à l'abri du hasard, de tas de petits mouvements contradictoires dont on ne sait pas trop à la fin ce que ça va donner. Je donne toujours l'exemple du scrutin de 2002, où là, Jean-Marie Le Pen a devancé Lionel Jospin avec 199 000 voix. C'est rien, 199 000 voix. Si vous avez quelques 66 000 bureaux de vote, ça fait 3 voix par bureau de vote. Donc, je dirais que nous sommes dans l'incertitude la plus totale et que la campagne, pour le coup, va jouer, ainsi que le débat, même si c'est à la marge, ça peut faire la différence.
Alors effectivement, les choses peuvent changer très vite. D'ailleurs, il y a quelques semaines, la dynamique n'était pas forcément du côté de Marine Le Pen, à l'extrême droite. Qui aurait pu prévoir l'effondrement à ce point-là d'Éric Zemmour ? D'ailleurs, Éric Zemmour a servi la cause de Marine Le Pen ?
Absolument. Au début, on pensait qu'il allait l'avaler tout cru, et puis ça a été l'inverse. C'est elle qui l'a avalé tout cru. Il lui a servi de repoussoir. Il y a un moment où les courbes des intentions de vote en leur faveur se sont croisées et où il même l'a dépassé légèrement. Il me semble que son image, elle a basculé au moment du meeting de Villepinte, quand il y a eu ces violences contre des militants de SOS Racisme qui étaient venus provoquer avec un t-shirt non au racisme. Et ces violences ont commencé à changer son image. Tout un tas d'autres maladresses de sa part, braquant avec une arme en bois les journalistes ou faisant un doigt d'honneur à une militante à Marseille. Mais progressivement, sa radicalité, sa nouveauté ont laissé la place à une image de violence et servi la campagne de dédiabolisation de Marine Le Pen. Et on voit très clairement que lui a fait pendant les 15 derniers jours de plus en plus peur et Marine Le Pen de moins en moins peur. Donc oui, objectivement, il a avantagé Marine Le Pen.
Marine Le Pen qui, elle, a lissé son image. Elle, lors de ce fameux meeting où elle est venue parler d'elle, de ses enfants, elle a parlé pendant toute la campagne de ses chats. Elle a réussi à adoucir cette image ?
Mais ça fait longtemps qu'elle joue là-dessus. Elle est très habile parce que non seulement elle est différente de son père. Son père, un bon indice, son père rebutait vraiment l'électorat féminin parce qu'il avait des côtés sexiste, viriliste et assez violent. Et donc, à l'époque du père, il y avait à peu près 7 points d'écart entre le soutien des hommes et des femmes. Marine Le Pen est venue et elle s'est présentée comme une femme. Elle a dit « moi ». Là, sur ses affiches et sur sa profession de foi, c'est « femme d'État ». Moi, femme, mère française, moderne, quasi-féministe, elle s'est définie parfois. Donc, tout cela, parfois à tort, on pense que les femmes ont plus de douceur que les hommes. C'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, elle a joué sur cette image. Et en plus, elle a fait quelque chose de très intelligent. Elle a retourné les argumentaires qu'il y avait contre elle. Elle a dit « nous ne sommes pas racistes ». Nous ne sommes pas antisémites, ce qui est vrai de son point de vue. Elle a mis un frein là, son parti moins. Mais en tout cas, elle a dit, c'est nous qui défendons la démocratie. C'est nous qui défendons la démocratie, nous sommes le rempart contre l'islamisme radical. Nous défendons les femmes, les gays, les juifs. C'était un retournement complet de la situation et certains qui ne connaissaient pas le parti du temps du père s'y sont laissés prendre.
On l'a vu aussi surfer sur le mouvement des gilets jaunes, sur les obligations nées de la crise sanitaire, comme si la question de l'immigration et de la préférence nationale était passée au second plan. Pourtant, les fondamentaux sont toujours là.
Mais elle n'a même pas besoin de le dire. Quand vous demandez où classer Marine Le Pen, on la classe plus à droite que tous les autres. Et quand on regarde qu'est-ce qui est associé à son nom, c'est l'immigration. Donc elle n'a même pas besoin de le dire, on le sait. Chaque fois que nous avons des sondages sur le profil des différents électorats, on voit très clairement que ce qui distingue l'électorat de Marine Le Pen, et maintenant aujourd'hui encore plus celui de Zemmour, c'est une polarisation sur l'immigration. Et si vous regardez le programme de Marine Le Pen, eh bien vous voyez que tout est vu à travers le filtre du danger immigré. C'est de là que viennent toutes les menaces.
Elle a aussi bénéficié du fait que certains ont voté par opposition au chef de l'État. On va voir ça avec ce reportage de Stéphanie Scoc de France Bleu Gironde à Belin-Bélier, dans le sud du département de la Gironde. Dans cette commune traditionnellement de droite, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 31% des voix, loin devant Emmanuel Macron, 22%, et Jean-Luc Mélenchon, 16%.
Devant la boulangerie de Belin, quelques habitants débriefent les résultats du premier tour. À la question « Pourquoi avez-vous voté Le Pen ?», Janine pointe un sentiment d'insécurité et de dépossession.
On n'est pas tranquille. Il y a des vols. On vit dans une indifférence totale. Et comme il est arrivé pas mal de gens de l'extérieur, ils arrivent... un pays conquis. Les locaux se sentent maintenant des étrangers.
C'est vrai que Belin-Bélier s'est transformé avec l'arrivée d'urbains en quête de logements bon marché, une nouvelle population qui galère parfois avec les minima sociaux. C'est le cas de Mélissa. Elle n'a pas voté Le Pen, mais elle est en colère contre la politique sociale d'Emmanuel Macron.
Même moi, je suis toute seule avec mon fils, j'ai perdu les allocations logement, j'ai perdu... Voilà quoi, il fait que ça en fait, faire des lois pour qu'on s'enfonce un peu plus. Donc forcément, ça donne envie de voter les extrêmes, je pense.
Et la goutte d'eau, c'est le projet de retraite à 65 ans, affirme cet électeur du RN.
Il y a beaucoup de gens qui sont tôt dans les champs, qui sont tôt dans le bâtiment et ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à 65 ans, à mon avis. C'était le moment de voter Le Pen et c'était le moment de montrer à tout le monde qu'effectivement, on n'est pas super content du travail de Macron.
Les habitants de Belin-Bélier ont donc placé Marine Le Pen en tête au premier tour, comme en 2017, mais quid du deuxième? Lors du précédent scrutin, c'est Emmanuel Macron qui l'avait finalement emporté.
Voilà pour ce reportage de Stéphane Hiscock. Que peut-on dire de ceux qui entourent Marine Le Pen? On a l'impression qu'ils ne sont pas si nombreux que ça.
Il y en a certains qui sont partis rejoindre Zemmour, mais enfin, elle continue à avoir sa garde rapprochée. Et donc, il y a un peu de tout là-dedans. Hein, mais il y a des gens de la famille, parce que c'est très important, c'est un parti où la famille compte. Mais il y a des identitaires dans son entourage, c'est-à-dire des personnes venues de ces mouvements identitaires.
Elle a expliqué qu'elle avait fait le ménage.
Elle a fait le ménage, mais il continue à y en avoir quelques-uns qui sont là, parce qu'ils ont une vieille expérience militante et que leurs conseils peuvent servir. Mais disons que c'est un entourage qui n'est pas tout à fait le même que celui de Zemmour, parce qu'il y a moins tous ceux qui sont la représentation d'une vieille droite conservatrice, les catho-tradis, comme on dit, là aussi, elle a fait un peu le ménage de son côté. Mais disons qu'il y a quand même un petit problème quand vous parlez de son entourage. Si on va au sens large, la tactique du parti a été d'attirer à elle des hauts fonctionnaires, des énarques, des gens compétents, des gens capables. Et pour l'instant, on a le sentiment qu'ils n'ont pas encore de grandes personnalités d'envergure qui pourraient être ministres, par exemple. Ils en ont peut-être deux. Donc, elle a un entourage, elle est en train de répéter pour réussir le débat, pour mettre toutes les chances de son côté. Mais je ne suis pas sûre qu'ils aient suffisamment de poids lourd dans le parti. Ça, c'est aussi une des faiblesses de Marine Le Pen.
Alors, vous l'avez dit, elle a un discours qui retourne les choses, notamment depuis le début de la semaine. C'est flagrant. Maintenant, elle parle de faire barrage à Emmanuel Macron. Elle dénonce sa brutalité. Elle se pose comme celle qui défend une France fraternelle pour les plus vulnérables. Mais par moment, quand même, sa nature la rattrape. Voilà ce qui s'est passé cette semaine lors de sa conférence de presse consacrée aux institutions. Elle a été rattrapée par une question d'un journaliste de Libération sur l'éviction des équipes de Quotidien. Marine Le Pen a répondu qu'elle était chez elle.
Donc, vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer, que nous préférons accréditer les journalistes plutôt que les émissions de divertissement.
Et donc, c'est vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste?
Ah oui,
ou pas.
Vous voyez, je suis chez moi.
C'est vous qui décidez qui est le journaliste ou pas?
Vous savez, je suis chez moi, hein, donc dans mon QG et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, hein, oui, dans toutes circonstances. Ça fait des années, si, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est... Ah ben oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'assume, moi, quand c'est moi qui décide, j'assume. Si j'accrédite l'ensemble des autres, y compris, bien entendu, des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous.
Merci beaucoup. Une réaction, Anna Maillard?
Oui, je veux dire, on a parlé beaucoup de l'immigration, ce qui est un des marqueurs, mais l'autre marqueur, c'est une société d'ordre autoritaire, hiérarchique, et aussi cette dimension populiste qui est que le leader, c'est lui qui décide. Il est en contact direct avec le peuple et le reste, il s'en fiche. Et donc, toutes ces médiations, tous ces corps intermédiaires, qu'il s'agisse du Parlement, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse des associations, la tendance est peut-être à les balayer un peu sur son passage.
Alors, on parlera tout à l'heure, évidemment, de ceux qui vont faire la différence au second tour, notamment peut-être les jeunes, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On va s'intéresser aussi à cette campagne de second tour d'Emmanuel Macron. Notre chroniqueur, Vincent Martini, va nous rejoindre. Mais d'abord, retour sur les événements des derniers jours avec ce mix mis en onde par Anne-Cécile Perrin.
Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait.
Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement.
27,8% des suffrages pour Emmanuel Macron, 23,1% pour Marine Le Pen qui devance d'une courte tête Jean-Luc Mélenchon.
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
Avec près de 22% des suffrages, le candidat de l'Union populaire a eu la défaite presque joyeuse dimanche soir. Loin, très loin derrière lui, avec 7% des voix, le grand retournement pour Éric Zemmour.
J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
Malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron.
Valérie Pécresse sous les 5%, tout comme Yannick Jadot.
Notre vote ne vaut pas caution.
Moi, j'ai l'impression qu'on insulte la jeunesse. J'ai 25 ans, j'ai zéro espoir, en fait.
La radicalité néolibérale ou la radicalité fasciste, faut choisir, et c'est horrible.
Pour beaucoup d'électeurs de gauche, un choix impossible au second tour.
Le mec, je me suis battu contre lui pendant 5 piges. J'allais dans les manifestations, j'allais partout contre lui. Mais non, je ne peux pas voter pour lui.
Il y a ceux qui ne peuvent se résoudre à voter pour le président sortant et ceux qui se laissent séduire par le programme de Marine Le Pen.
Macron, il voulait pas baisser la TVA sur les fruits, sur les machins. Du côté de Marine Le Pen, ça me plaît bien, bon, avec son programme sur le pouvoir d'achat.
Le coût de la vie, voilà ce qui rattrape le président candidat en campagne. Et ce n'est pas facile tous les jours.
Jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous.
Eh ben merci.
Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez.
Mais si vous avez des idées de que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y aller.
C'est bien, donc lui, ça fait 3 jours qu'il est en campagne, moi, ça fait 30 semaines.
Et s'il n'y avait que le pouvoir d'achat, mais il y a l'âge de départ à la retraite qu'Emmanuel Macron souhaite relever à 65 ans. Et là, pour certains, ça ne passe pas du tout.
Vous ne savez pas ce que c'est un ouvrier. À 60 ans, les gens décèdent de fatigue. On en est malade de votre réforme.
Mais le niveau des retraites, moi je regardais aussi le programme de Mme Le Pen, elle ne permet pas de l'augmenter.
Alors quand un journaliste lui demande s'il est prêt à bouger...
Ça pourrait être 64 ou ça, c'est forcément 65.
Mais ça dépend quel horizon se donne.
La droite ironise Jean-François Copé.
À la fin des 15 jours, on va être à 55.
Pas simple le grand écart quand on a besoin des voix et de droite et de gauche, l'eurodéputé insoumis Manuel Bompard.
Si Emmanuel Macron veut faire un geste dans cette direction, qu'il abandonne tout simplement sa réforme des retraites.
La réforme des retraites comme un point de fixation. Alors Emmanuel Macron tente le tout pour le tout.
Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit.
Un référendum peut-être, je ne sais pas.
Moi j'ai bien peur que Macron y pense pas.
Des appels à faire barrage à l'extrême droite chez les artistes et les sportifs. Le champion de tennis fauteuil, Michael Jérémiaz.
Ne pas se mobiliser, c'est dangereux. J'estime qu'il y a un danger pour nos démocraties, pour surtout notre possibilité de vivre ensemble.
Quant à ceux qui ont la mémoire longue, comme Robert Badinter, ils n'ont aucun état d'âme.
Vous voterez pour M. Macron. Point.
Reste à savoir si cela suffira.
J'en ai marre qu'on me dise attention, vous allez voter pour elle, c'est le chaos, c'est le machin, et ça, je marche plus dans leur jeu.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France avec Nona Maillère, chercheuse en sciences politiques, directrice de recherche émérite au CNRS Sciences Po, spécialiste de l'extrême droite. Une réaction, Nona Maillère, à ce qu'on vient d'entendre?
Oh, oui, il y en a tellement que...
Alors on va les prendre peut-être l'un après l'autre parce qu'on a aussi des reportages qui vont suivre et puis on va accueillir Vincent Martini. Mais ce qui vous paraît le plus important peut-être?
En fait, l'incertitude dans laquelle on se trouve et l'envie de voter contre et surtout le ras-le-bol de se retrouver toujours devant le même choix. Et c'est là que les choses vont se jouer. Et moi, je pense, ça me fait penser tout de suite aux électeurs, aux 7 millions des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont le trésor couvé des yeux et par Macron et par Le Pen, parce que c'est là qu'on a le plus, c'est d'eux que va dépendre le scrutin. Et c'est d'eux là qu'il y a le plus l'idée. On s'est battu contre lui, c'est le président des riches. Et il est arrogant, il est brutal et maintenant vous me demandez de voter pour lui. Et donc le choix va être entre ceux qui ne vont pas voter, s'abstenir, voter blanc, et ceux, une petite minorité sans doute, qui iront jusqu'à voter Marine Le Pen, non qu'il soit d'accord avec ses idées, mais avec l'idée de entre la peste et le choléra, et au fond, au bout de 5 ans, eh ben, ils verront bien. Et à ce moment-là, ben, c'est nous qu'on écoutera.
D'où cette incertitude.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
Vincent Martini, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à Polytechnique, nous a rejoint pour sa chronique « Jeu de pouvoir » à lire demain dans l'hebdo Le 1. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Je ne fais pas les présentations, Nona Maillère.
On se connaît bien depuis longtemps.
C'est tous les deux. Aujourd'hui Vincent, vous allez tenter d'ouvrir notre vocabulaire politique à la langue allemande avec un nouveau terme qui en dit long sur la période que nous vivons.
Absolument Claire, et ce terme c'est « Schadenfreude », littéralement la joie de faire du mal, que l'on pourrait aussi traduire par la joie mauvaise de voir quelqu'un échouer, cette jubilation ressentie au malheur d'autrui, surtout lorsqu'on ne l'aime pas. Alors d'ordinaire, ce concept est réservé au rire un peu cruel, provoqué par le fait de voir un personnage de film trébucher ou prendre une porte en pleine figure, ou par la scène de Guignol donnant des coups de bâton aux gendarmes dans un spectacle pour enfants. Mais dans le cadre de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, ce sentiment semble devenu un leitmotiv très puissant pour une partie des électeurs.
Que voulez-vous dire?
Eh bien qu'un certain nombre de nos concitoyens se réjouit par avance de la défaite de l'un ou l'autre candidat et pourrait y contribuer en votant pour son concurrent, voire en n'allant pas voter du tout. Alors à ce jeu-là, les deux candidats ne sont pas à égalité et la cible principale de cette Schadenfreude à la française est aujourd'hui Emmanuel Macron. De nombreux Français qui n'ont pas voté pour le président sortant au premier tour expriment à voix haute la tentation de le punir en n'allant pas voter le 24 avril, voire en choisissant Marine Le Pen, comme on l'a entendu dans le mix que vous nous avez présenté.
À qui la faute ?
Eh bien, en premier lieu, au président sortant, qui a évidemment sa part de responsabilité dans les affects négatifs qu'il suscite. À force de se prendre pour Jupiter, de gouverner en monarque républicain, négligeant les corps intermédiaires, eh bien, il pourrait ressusciter la tentation populaire de lui couper la tête. On pourrait également blâmer notre culture politique, marquée par le refus des compromis, la lassitude démocratique, mais aussi par la frustration, le ressentiment, la défiance qui caractérise notre rapport aux élites politiques et qui peuvent nous conduire à souhaiter les voir échouer, surtout lorsqu'elles sont sûres d'elles qu'Emmanuel Macron.
L'élection présidentielle n'est-elle pas également très propice, justement, à exprimer ce type de sentiment ?
Ben absolument, c'est bien là le problème. Alors, c'est qu'elle se concentre sur les personnalités au détriment des programmes et qu'elle polarise excessivement les comportements politiques, la présidentielle peut en venir à nous aveugler sur nos choix électoraux. Et ce phénomène est d'autant plus fort aujourd'hui, depuis l'avènement de l'hyper-présidence qui place le chef de l'État en première ligne sur tous les sujets. Sauf que cette volonté de punir est une passion politique triste qui montre bien l'impasse dans laquelle nous placent nos institutions.
Comment cela ?
Eh bien, elle manifeste l'impuissance du citoyen dans un système où les pouvoirs du président sont démesurés et dans lequel les espaces de contestation trop limités. Spectateur et non plus acteur de la chose publique, le citoyen de plus en plus critique se sent dépossédé de son pouvoir souverain au profit d'un chef de l'État dont tout procède. Il ne lui reste donc plus que la menace d'une politique du pire pour être entendu. Alors que l'extrême droite est pour la troisième fois en 20 ans aux portes du pouvoir, avec cette fois une bonne chance de l'emporter, il faudra bien finir par réfléchir à une réforme radicale de l'institution, sans quoi les mêmes causes produiront éternellement les mêmes effets. À défaut, la joie mauvaise qui se terre en chacun de nous pourrait bien nous conduire à détruire notre démocratie de l'intérieur, en croyant soigner le mal par le mal.
Merci Vincent Martini, vaste chantier hein, que vous nous promettez là, Nona Maier, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ça pose la question des partis politiques. Parce que Emmanuel Macron a renforcé une tendance qui était à l'implosion des partis politiques traditionnels, de plus en plus coupés de leur base. Il y a tout des débats en sciences politiques autour de la notion de parti cartel. Ils n'ont plus besoin de militants et de leurs cotisations, puisqu'ils ont maintenant des financements des États. Donc, ils se sont progressivement, de plus en plus, éloignés de leur base. Et c'est quand même indispensable un parti politique qui fasse remonter les demandes justement des citoyennes et des citoyens d'en bas et qui les transforme en programme. Donc là, on a vraiment quelque chose. En plus, c'est vrai qu'on aurait besoin de plus de participation politique. Les demandes des Gilets jaunes étaient très claires là-dessus. Référendum d'initiative citoyenne d'un côté, populaire de l'autre et une proportionnelle, un système proportionnel. Parce que quand même, qu'un parti comme celui de Marine Le Pen se soit retrouvé très souvent avec de superbes scores électoraux et très très peu d'élus, ça c'est quelque chose qui pose aussi un problème en démocratie. Donc on a plein de problèmes à résoudre.
Alors les institutions, on en parlera tout à l'heure au téléphone sonne. Je reviens à cette question que vous posiez tout à l'heure, Nona Maier, que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui détiennent certainement une partie de la réponse. On va voir ce qu'il en est avec ce reportage de Béatrice Duguay dans une ville où l'on a massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est donc Roubaix dans le Nord, 41% d'abstention, 52% des voix pour le candidat de l'Union Populaire. Que vont faire donc ces électeurs au second tour ? Béatrice Duguay leur a posé la question. C'est un reportage que vous avez entendu dans le journal de 13h hier.
Emmanuel Macron ne vit pas dans le même monde que nous, dit Chaïna, qui a voté donc Mélenchon au premier tour, 19 ans, en service civique à l'association Damas. Elle a vu ses parents non vaccinés pénalisés dans leur travail. Elle est certaine d'aller voter au deuxième tour, plutôt blanc, mais elle va quand même s'intéresser à Marine Le Pen.
Regarder des vidéos d'elle qui parle aux gens, voir comment elle parle aux gens. Parce que j'ai vu des vidéos de Macron mal parler aux gens, mais j'ai pas vu des vidéos d'elle mal parler aux gens ou dénigrer certaines personnes.
Donc, par exemple, là, vous pouvez voir, c'est une photo de moi avec un ami militant.
Et là, Hamza milite à la France Insoumise depuis 5 ans, étudiant en musique. Il est à l'heure du choix pour le 24 avril.
Oui, c'est déjà fait. Hein, j'ai décidé de m'abstenir.
Et il place les deux candidats restants sur le même plan.
Je ne vois pas faire un vote utile, un vote de barrière. Je l'avais fait en 2017. Là, je n'ai pas envie. On dit souvent en politique c'est la peste ou le choléra, mais là c'est réellement le cas. Emmanuel Macron ne me parle pas, il est toujours un peu narcissique, en Jupiter un peu, vous savez, je suis le chef. Marine Le Pen, ce que j'aime pas, c'est sa manière de stigmatiser les Français et de les désunir, alors que le rôle d'un président, c'est de réunir tous les Français finalement.
Yanis, lui, n'a pas encore tout à fait choisi, plutôt Macron pour cet entrepreneur social de 25 ans, histoire de faire barrage, parce qu'il craint aussi l'abstention des jeunes qui ont voté Mélenchon.
Pour beaucoup, en fait, ils se disent que ça sert à rien, en fait, parce que même quand ils se mobilisent, ça change rien. y a toujours le même second tour et ça peut, je pense, décourager pour le second tour. Et ça revient souvent chez les jeunes, on n'est pas dupes, on veut des actes. Et c'est aussi pour ça que Macron a du mal, parce qu'il a eu 5 ans pour agir.
La participation à 60% pour ce premier tour de présidentiel est considérée comme correcte à Roubaix, en comparaison des 10% seulement des régionales de l'année dernière.
Emmanuel Macron, lui, cherche des voix à droite et à gauche. Jusqu'à présent, on peut raisonnablement penser que c'est surtout à droite qu'il les a trouvées. Pour preuve, ce reportage de Delphine Evenot à Cran, en Mayenne, une terre de droite, où le président candidat est arrivé très largement en tête, avec 42% des suffrages, 15 points de plus qu'il y a 5 ans, alors que la candidate de LR n'a réuni que 5% des voix.
Parc à Bordeaux sur le dos, une dame de 89 ans traîne son caddie violet à vive allure de commerce en commerce. Son prénom, elle ne le donne pas.
Non.
Mais veut bien dire quel candidat a eu ses faveurs.
J'ai voté pour le président sortant, oui, madame, écoutez. Je dis que si la France te reste tranquille, pourquoi changer? Voilà mon opinion. Pendant son quinquennat, il nous a pas été mauvais quand même. J'ai confiance en lui.
En 2017, cette ancienne agricultrice a voté François Fillon.
La Mayenne en est une grande partie de droite, oui.
Il est de droite ou de gauche, Emmanuel Macron?
Oh, il n'est pas de la gauche, surtout.
Et cela plaît aux électeurs. Gérard, 76 ans, a mis le bulletin Macron sans avoir l'impression de renier ses convictions.
J'ai toujours voté la droite, alors pourquoi je change aujourd'hui?
Il a trouvé en Emmanuel Macron un homme d'État.
Nous, on l'avait toujours dit quand Macron, il avait pensé, c'était un gamin. C'est vrai qu'il était jeune. Puis finalement, il a fait ce qu'il a pu. Les gilets jaunes, s'appelle le Covid, c'est la guerre, je ne sais plus où, là.
En Ukraine,
tout ça, il faut qu'il y ait la route.
Le plus à même de gérer un pays parmi tous les candidats, approuve Charlotte, la trentaine, sur le chemin du travail, le pas pressé.
Il y a quand même des choses qu'il a mis en place qui sont bien, comme la prime d'activité par exemple. Bah, il essaie de faire des choses, après sûr que c'est pas vraiment les meilleures choses, mais il essaie.
Sorti de boulangerie, pain à l'ancienne sous le bras, Jean-Pierre, retraité de la marine marchande, conservateur assumé et désormais macroniste.
Maintenant je pense qu'il va falloir changer le clivage droite-gauche et tout, il va falloir revoir un petit peu, il faut que ça évolue ça aussi. On peut plus se cantonner à soit être de droite, soit être de gauche. Il va falloir un jour quand même se rassembler mieux que cela, quoi. Mais ça, il faut le faire comprendre aux Français.
Mais pour certains, difficile de renoncer à l'ancien monde politique. Boucherie Journiac, à la découpe, le patron, Daniel, 59 ans, et une carte d'adhérent au parti Les Républicains. Il a hésité dans l'isoloir, juste un peu.
J'ai voté Pécresse parce que c'était mon parti. Au deuxième tour, je voterai Macron. C'était pas mon président, alors du coup, je vais pas dire que je l'aime pas, mais il est trop arrogant. J'espère qu'il va se rattraper au deuxième quinquennat. Puis bon, il y a Sarkozy qui le soutient. Là.
Ça me fait plaisir.
Bah oui.
Fine doudoune sombre, lunettes rouges, Alain, partisan de François Fillon, il y a 5 ans, a lui choisi de renverser la table dimanche dernier.
J'ai mis Zemmour, contesté un peu, parce qu'il y a de l'ordre à mettre en France, mais c'est pas 8 ans, ça manifeste pas grand-chose. Hein. Il y a de l'ordre à mettre, mais bon, c'est pas facile.
Pour remettre de l'ordre, Alain votera Emmanuel Macron le 24 avril.
Bon, il est quand même pas tout mal.
Sans regret, même s'il a préféré l'extrême droite au premier tour, pas question de voter Marine Le Pen au second.
Voilà pour ce reportage de Delphine Evenot. C'est compliqué pour Emmanuel Macron d'aller chercher les voix un petit peu partout.
Oui, c'est compliqué. Il est un petit peu dans une forme de donjuanisme politique, Emmanuel Macron. Vous savez, dans l'acte 2, la scène 4, Don Juan promet à deux paysannes, Mathurine et Charlotte, de les épouser. Alors il leur dit, n'écoutez pas l'autre, c'est vous que j'aime. Et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est un peu contraint à cet équilibrisme entre la droite et la gauche. Et donc il fait des promesses maintenant à gauche, après en avoir fait beaucoup à droite. On voit que ça a payé dans le reportage que vous avez diffusé.
D'ailleurs, on entend le soutien de Nicolas Sarkozy. Il s'en est pas trop vanté, Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy veut plus que soutenir, il voudrait carrément participer à la recomposition, si on a bien compris.
Le problème qu'il a, c'est plus il va pousser d'un côté et plus il va perdre de l'autre. Et en l'occurrence, les voix qu'il a besoin de prendre aujourd'hui, elles sont beaucoup plus à gauche qu'à droite. En réalité, c'est la gauche et surtout les électeurs de la France insoumise qui sont la clé du scrutin, on le sait bien. Donc évidemment, pour Emmanuel Macron, ce genre de soutien qui serait bienvenu il y a 3 semaines, 1 mois, eh bien aujourd'hui, il est plus compliqué à gérer.
Et il les a un peu oubliés, parce que justement, c'est très joli l'image du Don Juan. Mais il y a une des paysannes à laquelle il a fait des vœux de beaucoup plus proche et beaucoup plus cher, c'est la droite. Parce qu'il a quand même, coup sur coup, annoncé la retraite à 65 ans, la restriction du RSA et transformation de la notation des enseignants. Tout ça, c'était pour faire plaisir à un électorat de droite. Et s'apercevoir une semaine avant qu'il y a aussi des électeurs de gauche, c'est un peu difficile à croire. Mais c'est passionnant le reportage que vous avez montré, parce que ça détruit l'illusion qu'il y a des votes en bloc. Ça montre bien la diversité des choix.
En fonction des expériences de chacun.
Des expériences, on peut voter pour, on peut voter contre. Donc c'est absolument fascinant. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on en arrive à dire que c'est la même chose. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je ne crois pas du tout que ça soit la même chose quand on regarde de près le programme de Marine Le Pen. C'est pas vraiment la même chose. Ça me fait penser, en ce moment, il y avait des manifs de l'UNEF, des occupations de locaux, ils étaient devant Sciences Po, et on avait ce refrain, je ne veux pas choisir entre le roi des bourgeois et la facho. Oui. D'accord, mais il me semble quand même...
Vous avez du mal à comprendre cette jeunesse qui dit qu'elle
en a marre.
Faire barrage, ça suffit.
Elle en a marre, mais en même temps... Peut-on prendre le risque de faire venir quelqu'un comme Marine Le Pen? Tout ce qu'elle représente me semble infiniment plus dangereux pour l'avenir. Si vous regardez, en fait, elle instaurerait, ou elle essaierait d'instaurer dans la Constitution, la priorité nationale. Il faudra pas bon être étranger, immigré, réfugié, si Marine Le Pen arrive au pouvoir. La priorité nationale, c'est-à-dire réserver les emplois, les boulots, les aides sociales aux Français, ça va contre un principe constitutionnel d'égalité et de fraternité. Quand elle parle de fraternité, Marine Le Pen, ça me fait quand même un peu rire, parce que fraternité avec... priorité nationale, non, ça dépend pour qui. Et puis en plus, elle supprimerait la loi Guesso et la loi Pleven, donc elle ouvrirait les barrières à l'antiracisme.
Contre le racisme, voilà, c'est ça.
Donc,
Vincent Martini, que dire de la façon dont se passe cet entre-deux-tours? Pour l'instant, on a une semaine de campagne. Emmanuel Macron, on voit, est obligé de multiplier les déplacements, obligé de répondre aussi à un certain nombre d'interrogations posées par Marine Le Pen.
On a le sentiment que Emmanuel Macron fait maintenant ce qu'il aurait dû faire depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que Marine Le Pen disait tout à l'heure dans votre reportage, ce qu'il fait depuis 3 jours, je le fais depuis 30 semaines, on voit que là, la campagne a une valeur. Elle est là pour mobiliser, on le sait bien, dans les travaux qu'on fait sur les campagnes, elles ont un rôle non pas totalement décisif sur le vote, quoique de plus en plus aujourd'hui, mais elles mobilisent des électeurs, elles permettent de clarifier un certain nombre de positions et de rendre des comptes. Emmanuel Macron, là, entend toute une série de paroles sur son mandat, sur son quinquennat, et qu'importe qu'il le sache avant ou pas, ce que veulent les Français, c'est qu'ils aient le sentiment qu'il a été entendu. Qu'il a entendu ce qu'il leur disait. Donc ce qui est en train de se jouer, c'est ça. Alors la difficulté qu'a Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que il semblerait que les sondages maintenant disent qu'il creuse un peu un écart, tout doucement, etc. Mais le problème, c'est qu'il va falloir tenir cette tension-là tout le long des 10 jours qui viennent, puisque on sait que le débat de l'entre-deux-tours pourrait être décisif pour renverser les choses. Jusqu'à présent, les enquêtes de sciences politiques montraient que le débat de l'entre-deux-tours changeait pas grand-chose au vote final. Sauf que là, maintenant qu'il y a des dynamiques de dernière minute, eh bien, un débat raté pour Emmanuel Macron pourrait être déplacé suffisamment de votes pour faire basculer une élection.
C'est quoi le principal défaut quelle est la principale qualité d'Emmanuel Macron? Difficile, hein?
Alors, la principale qualité, c'est probablement sa plasticité. Et dans le fait, dans une démocratie, son élasticité. Dans une démocratie, ça peut avoir des vertus, d'une certaine mesure, parce que ça donne le sentiment, dans un monde dans lequel, justement, le clivage droite-gauche est remis en cause par une partie des électeurs. On disait, en écoutant votre reportage tout à l'heure avec Nona Meyer, que, en fait, souvent, les gens qui disent que la droite et la gauche n'existent plus, c'est souvent des gens de droite, parce que les gens de gauche sont attachés, en tout cas, ceux qui votent encore pour des partis de gauche sont attachés à cette distinction. Mais cette élasticité, elle peut séduire une partie des Français qui sont moins sensibles aux questions idéologiques. Son principal défaut est paradoxal, parce qu'il est très lié à ce que je viens de dire, c'est la difficulté qu'a Emmanuel Macron à faire des compromis. C'est quelqu'un qui écoute et qui à la fin dit « je vais décider en fonction de ce que j'ai entendu ». Mais il n'est pas du tout dans l'idée que « voilà, vous êtes là, moi je suis là, on va faire chacun un bout de chemin et on va discuter ensemble ». Il n'est pas du tout dans la délibération collective.
Faire des concessions, ce n'est pas dans sa nature.
C'est pas dans sa nature, c'est quelqu'un qui a plutôt l'habitude d'imposer son point de vue ou de recevoir des points de vue différents comme des doléances et d'y répondre. Mais ça, pour les sociodémocrates dont il veut qu'ils votent pour lui, ça va être compliqué, parce que pour les sociodémocrates, c'est le cœur des choses. C'est-à-dire la gauche modérée, la négociation, c'est le cœur.
Le compromis.
Nona Meyer, vous partagez cette analyse?
Oui, et je trouve que l'image qu'il donne, et on l'entend souvent dans les entretiens, c'est qu'il est arrogant. Et que il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail, non. Et si bien que quand on regarde les traits d'image attribués aux différents candidats, Marine Le Pen apparaît comme plus proche des gens. Et ça, c'est vraiment un défaut. Donc, il y a peu de temps pour modifier cette image. Et le débat, bon, la télévision ne fait pas l'élection. Mais c'est vrai qu'à la marge, comme on est dans un contexte où tout va se jouer à quelques centaines de milliers de voix, oui, ça peut faire la différence.
Nona Meyer, on va parler de vous dans quelques minutes, de votre parcours. Vincent Martini, on vous lit dans l'hebdo Le 1 de cette semaine, qui paraît demain, dont le titre est « Peut-il perdre ?»
Alors, il est paru mercredi, mais c'est...
Il est paru mercredi.
C'est l'application.
C'est l'application demain, voilà, c'est ça, dont on a eu la primeur ce soir. On a quand même beaucoup de chance. Je rappelle que vous avez aussi écrit Le Retour du Prince chez Flammarion 2019 et que vous avez lancé La Boussole de la Présidentielle. Ça, c'est sur...
Pas tout seul, mais avec quelques collègues de Sciences Po, justement. C'est une boussole qui permet aux gens de savoir quel candidat matche le mieux avec leurs idées. Elle est encore disponible à laboussolepresidentielle.fr.
Merci beaucoup Vincent
Merci
Martini d'être resté avec nous ce soir.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noire, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant, mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne. Plus brave que belle, plus frère que fier, que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Oh, ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle.
Bernard Lavillier et Terre Noire, je tiens d'elle. Une chanson sélectionnée pour vous par Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Nona Maier, directrice de recherche au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, ancienne présidente de l'Association française des sciences politiques. On va parler de vous maintenant, Nona Maier, comment l'aventure a commencé. Vous avez grandi en région parisienne et pas spécialement dans une famille passionnée de politique.
On ne parlait jamais de politique, ni de religion, ni de politique. Ma mère était américaine, donc elle ne comprenait pas grand-chose à la scène française. Mon père était médecin et la politique, non, il avait eu la guerre, il avait eu son compte. On n'en parlait pas. C'est mai 68 qui m'a fait découvrir la politique.
Mai 68, vous étiez à Nanterre.
J'étais à Nanterre.
Étudiante à Nanterre.
Oui, la folie Nanterre.
Alors, ça devait être quelque chose. Hein.
Et ça a été fascinant, ça a été mon baptême du feu. C'est là qu'on avait fait les premiers tracts, les premiers débats. Et c'est ça qui m'a fait découvrir la politique, les mouvements sociaux. C'est ça qui m'a conduite ensuite à retenter Sciences Po, parce que j'avais essayé une fois, ça n'avait pas du tout marché, l'année, la paix. Et là, je suis devenue chercheuse en sciences politiques à cause de ça.
Pourquoi vous êtes intéressée très tôt à l'extrême droite? Parce que c'était pas forcément très, j'allais dire, tendance à l'époque. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? Je crois que vous êtes intéressée notamment aux petits commerçants.
Oui, ma thèse portait sur les petits commerçants. J'habitais dans une rue commerçante et je faisais les courses le matin tôt avant d'aller à la fac. Et on parlait. Et ça m'avait donné il y avait un crémier qui tapait sur la table en disant, moi je vais vous dire ce qu'il leur faut les Français, il faut un nouvel Hitler. Et en fait, il était pas du tout nazi. Il était simplement exaspéré par les grandes surfaces, la hausse des prix. Et j'ai commencé à partir de là à essayer de comprendre les réactions des petits commerçants artisans. C'était l'époque du mouvement de Gérard Nicou. Ils enlevaient des percepteurs, ils brûlaient les papiers fiscaux. Et c'est là, en faisant ma thèse, quand j'ai terminé cette thèse, que j'ai commencé à la publier, on disait, c'était le début du Front National. Et tout le monde disait, ah ben oui, l'électeur type du Front National, c'est le petit commerçant. Et à l'époque, c'était pas vrai. Et donc, c'est ça qui m'a conduite à aller regarder qui étaient les électeurs et les électrices du Front National. Donc, tout ça, c'est fin des années 80, très tôt.
Et vous avez publié beaucoup de choses là-dessus. Vous avez écrit notamment « Ces Français qui votent FN »,« Ces Français qui votent Le Pen »,« Sociologie des comportements politiques ». Il y a énormément de publications, Nona Maïa. Autre terrain de recherche pour vous, le racisme, l'antisémitisme. Vous êtes depuis des années membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où vous avez mis en place avec Vincent Tibéry un indice longitudinal de tolérance. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, justement, dans le contexte actuel, on a cette poussée de l'extrême droite. Est-ce que vraiment ce pays est plus raciste qu'avant? Vos recherches ont tendance à nous dire le contraire. C'est ça qu'on ne comprend pas.
Pas du tout. Il y a le pays qui vote. N'oubliez pas que tout le monde ne va pas voter. Il y a ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la nationalité, ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, ceux qui sont mal inscrits et qui vont pas se déplacer pour aller voter, et ceux qui s'abstiennent. Ça fait beaucoup de monde qui reste sur le coin de la route. Moi, j'ai décidé, je sais plus par
quoi commencer là. Non, je vous avais dit votre travail à la CNCDH.
Oui. Donc, très tôt, on a essayé de montrer, avec Vincent Tibéry en tout cas, que l'évolution de la société française, quand on la prend dans son ensemble, c'est-à-dire dans sa diversité, dites-vous bien qu'il y a à peu près un gros tiers des personnes dans nos échantillons dont le parent, au moins un parent ou un grand-parent, est étranger. Eh bien, paradoxalement, depuis 1990, bon an, mal an, la tolérance à l'égard des minorités et de l'autre augmente. Donc il y a un décalage entre le corps électoral qui vote, les élites qui ont axé tout le débat politique sur l'immigration avant le premier tour, et la réalité de la société française dans sa diversité.
Un petit mot, Nona Maïa, de ce livre qui sort aux éditions de l'Aube, Les mots qui fâchent. Vous l'avez co-dirigé avec d'autres. Il y a ce sous-titre, Contre le maccartisme intellectuel. C'est une façon de répondre à tous ceux qui utilisent des mots pour discréditer.
On s'est fait attaquer. Les sciences sociales, en général, font l'objet d'attaques depuis assez longtemps. On nous accuse de colporter une culture de l'excuse, d'ethniciser les rapports sociaux et d'être des islamo-gauchistes. Et là, les attaques venaient de nos ministères de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Recherche. Alors on a pris un coup de colère pour essayer de rétablir le débat et d'affirmer notre position de chercheur et de dire non, nous on essaie de comprendre la société avec nos mots, nos instruments, Philippe Corcuff et Alain Policard et moi, et on a mobilisé toute une équipe avec des gens, des sociologues, des anthropologues, des politistes, tout ce que vous voulez, pour essayer de redéfinir ces mots qui sont galvaudés et utilisés à tort et à travers dans le débat politique.
Voilà, des mots comme néo-féminisme, intersectionnalité, islamo-gauchisme. Vous dites que ce sont des mots qui sont utilisés pour discréditer.
Islamo-gauchiste, oui. Cela veut dire que moi, Vincent, tous ceux qui travaillons sur les préjugés, et en particulier sur les préjugés envers les musulmans et envers l'islam, on utilise le terme d'islamophobie parce qu'il est utilisé dans toutes les sciences sociales. Aucun mot n'est bon. Antisémite n'est pas bon non plus parce que c'est des préjugés contre les juifs aujourd'hui, pas contre les sémites. Négrophobie, romaphobie, aucun de ces mots n'est bon. Mais on essaie de définir les préjugés. Et à partir du moment où nous, on travaille sur les préjugés à l'égard de l'islam et on utilise ce mot, on nous accuse d'empêcher toute critique de l'islam. C'est entièrement faux. Nous, en tant que chercheurs, on essaie de voir d'où viennent les préjugés contre les musulmans, s'ils sont liés aux préjugés contre l'islam, et on nous disqualifie en nous disant que vous êtes du côté des islamistes. Autrement dit, nous sommes des terroristes en puissance. Ça nous a vraiment mis en colère. d'où ce livre.
Vous, ça vous a valu aussi à la présidence de la Fondation des sciences politiques.
C'est un dommage collatéral.
Vous aviez postulé à la succession d'Olivier Duhamel. Beaucoup d'auteurs, effectivement, vous avez cité. Il y a Michel Vivorca, il y a Rachid Benzine, Myriam Revaud-Allonne et plein d'autres que j'oublie. C'est aux éditions de l'Aube, Les mots qui fâchent. Un très grand merci, Nona Maier, d'être venue ce soir sur France Inter pour évoquer avant toute chose le deuxième tour de la présidentielle.